Oui, il y a eu tout de même eu un grand progrès en justice, en liberté, en bonheur de 1945 à 1965. Je crois qu'il faut nous attendre à un progrès comparable, sinon supérieur, de 1965 à 1985.
Souvenir, mon avenir, adieu.
Adieu.
Je crois que le monde de 1985 sera un monde plus libre, plus drôle que le monde de 1965.
Mon avenir, adieu.
Prédiction pour le présent et pour l'avenir. Invention, découverte et progrès dans toutes les sciences.
Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000. Computer.
I didn't have to wrap your gift, I didn't leave the house. In fact, I never saw your gift, I did it all by house. I didn't venture to the ball, I didn't waste a day. I didn't have to park the car, you're welcome anyway. I didn't even write the card, but you'll know who it's from. Your thoughtful friend, who's still in bed, thanks to Amazon.com.
Comme le chante la publicité, grâce à Amazon, en un seul clic, sans quitter le confort boisé de son domicile, il est possible de commander tout ce que ce monde produit comme denrées culturelles, électroniques ou comme gadgets à la con, et les recevoir à la maison quelques jours plus tard, à des prix défiant toute concurrence. Créé en 1995 à Seattle par Jeff Bezos en tant que librairie virtuelle, Amazon.com s'est très vite imposé dans la galaxie des sites marchands sur le web, mais aussi face aux librairies et aux distributeurs classiques. Difficile, même pour le plus grand de ses concurrents, de faire face au catalogue quasi exhaustif proposé par Amazon, à des prix défiant toute concurrence. En 1999, suite aux manifestations contre l'OMC à Seattle, Vanessa Veselka décide d'aller travailler chez Amazon pour y monter un syndicat. 1999-2000, ce sont les années de la bulle Internet. Amazon vaut plus d'argent que jamais, mais 1999-2000, ce sont aussi les années où Amazon commence à vendre de tout, et plus seulement des livres. Amazon devient la grande surface d'Internet, le Walmart du web. Pour arriver jusqu'à chez vous, les livres d'Amazon, les gadgets électroniques d'Amazon partent de larges entrepôts. Ces entrepôts sont appelés des fulfillment centers, des centres d'accomplissement, des centres de satisfaction où travaillent des associés qui cherchent les objets et les mettent dans des cases.
Mon job était de trouver les livres sur les étagères et de les mettre dans des chariots pour qu'ils soient traités. On me donnait des commandes qui étaient enregistrées dans un système informatique. Quand j'avais fini de récolter les livres, je devais me déconnecter du système. Ce que l'ordinateur faisait, en dehors de fonctions logistiques, c'était de traquer ma productivité. Il me disait combien de livres je cueillais à la minute. Si ce chiffre baissait, un des supérieurs qui ne traînait pas loin venait voir ce qu'il m'arrivait, comment je m'en tirais. Tout était fait avec des gants de velours. Une fois, j'ai vu un manager de 25 ans crier « Mets les bouchées doubles !» à travers l'entrepôt à un employé de la cinquantaine dont les chiffres baissaient. Mais c'était une occurrence rare. À Amazon, tout était traduit dans un langage qui respectait l'identité personnelle par-dessus tout. Personne n'était licencié. On faisait juste savoir qu'il ne correspondait pas à ce travail, qu'il serait plus heureux ailleurs. Et après être allé chercher leur bonheur ailleurs, un intérimaire comme moi les remplaçait. À l'étage inférieur, en direction du côté collecte de l'entrepôt, il y avait un feu de circulation routière. Il ressemblait à un vrai feu, sauf qu'il était arrêté sur la lumière orange. Plus tard, j'ai appris que la couleur changeait au cours de la journée. Quand elle était verte, tu pouvais rentrer à la maison à la fin de ta journée de travail. Quand elle était orange, il valait mieux demander avant de partir. Et quand elle était rouge, il ne valait mieux pas penser à partir. Bezos avait une faiblesse pour les projets avec nom de code. Et selon les anciens employés, le nom de code du projet du nouveau management autoritaire d'Amazon était Projet Fargo, le plan qui devait faire d'Amazon le Walmart d'Internet. Les intérimaires affluaient et les employés permanents disparaissaient. La production accélérait. Les salaires étaient la moitié des salaires moyens locaux. Les soins médicaux étaient inaccessibles. En sus, les actions qui avaient été la carotte jusque-là perdaient toute leur valeur. Entre décembre 1999 et la fin de l'année 2000, les actions ont perdu 90% de leur valeur. Au-delà de ça, les détails irritaient les employés. Bezos rachetait des entreprises à coups de millions, mais supprimait le paracétamol gratuit qui était à la disposition de ses employés et dont ils avaient besoin. Les travailleurs avaient confiance en Bezos et ils se sentaient faisant partie du succès d'Amazon. Ils étaient fiers de ce qu'ils avaient construit. J'ai souvent entendu des employés affirmer que si Jeff était au courant de ce qui se passait dans les entrepôts, alors les choses s'amélioreraient. Des énormes centres d'accomplissement surgissaient à travers le pays. Dans le Nevada, ils étaient payés $5.15 de l'heure. Et les gens travaillaient 12 heures d'affilée, 5 jours par semaine. Les heures supplémentaires n'étaient pas payées, à moins d'être engagées à un minimum de 40 heures par semaine. Quand la production somnolait, les gens étaient renvoyés à la maison. On leur disait de ne pas venir les prochains jours, pour économiser de l'argent. Voilà les nouveaux modèles, le futur était là. Lorsque WashTech, en syndicat, a commencé à gagner en popularité du côté service clientèle d'Amazon, les fouilles à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt se sont intensifiées. Ils cherchaient des tracts syndicaux. Le management de l'entrepôt, habituellement tant obsédé par les chiffres et la rapidité de la production, a commencé à tenir des réunions obligatoires pendant les heures de travail, où il parlait de la famille Amazon et mettait en garde les employés contre les syndicats. Je ne me rappelle plus le premier chien en osier ou la première robe de communion à pénétrer l'entrepôt. Ce que je me rappelle, c'est que personne ne savait où les mettre. Ils ne rentraient pas dans les étagères à livres. Nous étions rentrés dans les premières étapes du développement du Walmart de l'Internet.
En 2010, le chiffre d'affaires d'Amazon était de 34 milliards, son bénéfice net de 1 milliard. En 10 ans, Amazon a cessé de croître, à mesure que les librairies disparaissaient, et les conditions de travail dans les centres de satisfaction d'Amazon, qui poussaient comme des champignons, ne faisaient qu'empirer. Lors de la vague de chaleur de cet été, ces conditions de travail ont refait surface dans la presse.
Le Morning Call, qui est un journal de Pennsylvanie, prétend que les employés d'Amazon à Allentown, Pennsylvanie, travaillent dans des conditions déplorables. Ils travaillent par une chaleur de 43 degrés, sans air conditionné, et apparemment, ils travaillent 11 heures par jour. 19 des 20 employés là-bas affirment qu'ils ont des secouristes près d'eux au cas où quelqu'un s'évanouissait en raison de la chaleur.
Dans leur caravane, leur camping-car, les nouveaux nomades de l'Amérique en crise se pressent pour aller cueillir les livres dans les entrepôts d'Amazon, comme en arrière-goût de plantations d'agrumes de Californie dans les années 1930.
Amazon.com propose ce que les travailleurs migrants veulent pour Noël en emploi.
Les gens du coin les appellent les gitans d'Amazon. Ce sont des travailleurs migrants venus de tous les États-Unis. Joshua Lindsay gagnait des centaines de milliers de dollars par année en tant qu'agent de change et investisseur dans l'immobilier en Floride avant la crise économique. Maintenant, sa famille de 5 personnes survit avec moins de 20 000 dollars par an. Cela va permettre d'offrir en Noël à mes enfants cette année. Cela va amener de la nourriture à notre table et un moyen de survivre jusqu'au printemps. Il y a plus de boulot disponible au printemps. On ne vit pas de beaucoup, mais nous sommes heureux. Pour moi, nous sommes sur une pente ascendante, dans mon esprit. Bill Judge, 72 ans, écume les autoroutes avec sa femme Dorothy et ses deux loulous de Pomeranie depuis 1994. Avec deux retraites, une de l'armée de l'air et une de Boeing, les judges n'avaient pas besoin de travailler jusqu'à ce que la récession engloutisse une partie de leurs investissements. L'absence d'assurance ne me tracasse pas. Cette absence de couverture, ils nous l'ont annoncé, ce qu'on aurait ou pas, et j'ai accepté. Je pense qu'Amazon traite ses travailleurs plus ou moins bien. Après la faillite de son entreprise de charpenterie, Dave Leiser a quitté Kansas City pour venir travailler ici pour Amazon. Il a tenu 5 semaines dans l'usine. Maintenant, il repart pour aller travailler la saison de ski dans le Colorado comme chauffeur de navette. Nous sommes juste des rouages de l'économie capitaliste. Il n'y a plus d'éthique de l'entreprise. Il n'y a plus de loyauté. C'est l'opinion d'un vieil homme. April McPhail est sur la route depuis mai dernier. Son mari Terry a perdu son emploi chez Dow Chemical dans le Michigan. Ils ont perdu leur maison, mais ils avaient un camping-car. Donc aujourd'hui, ils travaillent pour payer la nourriture et de quoi survivre. Je trouve que c'est triste. Je pense que l'Amérique a besoin de quelque chose d'autre. Ça devrait être la liberté et une vie agréable en Amérique. Et je pense que c'est d'une grande tristesse. Amazon.com is my favorite toy store. Hey, you're not the boss of me. The greatest selection of toys online.